En attendant là, que Pierre Monnier et Kuhn arrivent, là, on va juste se présenter tous les deux. Hein, donc moi je suis Jacques Prince. Hein, et donc à l'époque où j'étais chez Bull, là, pendant 20 ans, j'ai été le responsable des langages et bases de données pendant pas mal d'années. Et donc à ce titre, j'ai été le maître d'ouvrage du compilateur Fortran Isis dont on va parler tout à l'heure. Donc, on se connaissait bien tous les deux, on avait bien sympathisé. Et donc, c'est un petit peu à la suite d'un échange là que l'idée est venue de faire cette journée supercalculateur. Le conférencier principal étant Claude Timsit. Moi, je vais rappeler quelques faits d'un lointain passé là, mais donc la conférence sera principalement animée par Claude Timsit, qui lui a un vrai vécu plus important que moi, puisque moi c'était plutôt le compilateur Fortran. Bon, c'est une pièce importante du dispositif.
C'est une pièce importante.
Mais évidemment, le hardware là-dedans joue un rôle essentiel, comme on va le voir dans l'exposé de Claude. Donc je te laisse un peu te présenter personnellement. Puis j'espère
moi je me présente personnellement. Je m'appelle Claude Timsit. Donc j'ai fait plusieurs choses au niveau des calculateurs, donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, je suis prof depuis 1993 peut-être. J'ai toujours été prof à l'université de Versailles-Saint-Quentin et maintenant je suis prof émérite à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Mais actuellement j'enseigne l'architecture. En particulier, je me suis passionné pour l'enseignement des bases de l'architecture à des gens qui ne savent rien. Donc à des néophytes absolus, des gens qui sortent du baccalauréat ou qui n'ont pas encore leur baccalauréat. Donc ça me paraît être un sujet extrêmement intéressant parce que mon but est non seulement de leur apprendre à compiler, mais aussi à comprendre ce que fait le compilateur. C'est-à-dire comprendre comment du compilateur nous arrivons à la machine von Neumann, comment du compilateur nous arrivons à fabriquer un certain nombre d'une série d'instructions. Donc la compilation elle-même, je ne la fais pas, je leur demande de la faire à la main. C'est-à-dire que je ne leur enseigne pas à faire des compilateurs, mais je leur enseigne la façon de regarder comment un compilateur réalise ses opérations. Ça me paraît être un point extrêmement intéressant. Et donc, ça permet en particulier de voir que les gens qui ont suivi ce cours-là n'oublient pas trop les performances, parce qu'ils comprennent à peu près ce que fait leur compilateur. Ils n'oublient pas que les couches logicielles ramenées, rapportées, raboutées les unes aux autres, Java-like, risquent de faire un grand problème au niveau, risque d'être très très problématique au niveau des performances du code engendré, qui marchera certes, mais qui sera peut-être très mauvais. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Pierre.
Clé, un accompagnement oral, peu importe la technique, en l'occurrence, c'est très bon, merci. Donc, une brève introduction sur le HPC en France avant les années 70, donc avant ce qui constitue le vif du sujet aujourd'hui, et d'un point de vue non technique, d'un point de vue politico-économique. Le HPC, où ce qui en tient lieu. Le contexte, le contexte n'est pas bon, c'est la demande. Je vais raisonner en termes d'offre et de demande. La demande, c'est dans les circonstances de la reconstruction et de la guerre froide qui commence à la fin des années 40 avec les coups de force soviétiques en Europe centrale, c'est les grands programmes civils et militaires. D'abord l'aérospatiale, c'est la demande du bureau des missiles de l'armée de l'air qui occasionne la création de la première start-up vouée explicitement à construire des calculateurs électroniques en France, en 1948, la SEA. Donc pour simuler et calculer des trajectoires de missiles, plus tard de lanceurs civils, et bien entendu d'avions, y compris pour le guidage d'avions et pour la surveillance aérienne du territoire. Le nucléaire, au départ le CEA n'a qu'un tout petit bureau de calcul absolument ridicule comparé aux énormes centres de calcul des Atomic Energy Authorities anglaises et américaines. Mais à partir du moment où, vers 1955, avec le gouvernement Mendès-France, est prise de fait la décision de développer la bombe, le CEA devient soudain un des plus gros consommateurs de calcul au monde. Donc il y a un bond avec le passage aux applications de la recherche nucléaire et d'autres applications comme la météo par exemple. L'offre, c'est au départ, ce sont quelques petites start-up qui se créent pour répondre à des contrats, qui essayeront de vivoter quelques années avec des contrats. Parfois, ils parviendront en se diversifiant, mais c'est donc des sociétés fondées par des ingénieurs électroniciens, la Société d'électronique et d'automatisme, la SNERI, et les grands utilisateurs complètent cette offre locale par des importations. Ces offres, sur le plan technique, sont un petit peu tout ce qu'on explore à l'époque avec les techniques disponibles en matière de calcul digital et analogique, ou parfois les deux à la fois. Ainsi, le simulateur analogique et digital installé par la SEA au laboratoire de recherche balistique de l'armement à Vernon, le SABA, est certainement l'un des plus gros calculateurs électroniques et électromécaniques en service en Europe continentale dans les années 50. On peut en dire autant de la machine KL901 qui est un one-shot, qui est le seul gros ordinateur qu'a réalisé la SNERI, la Société Nouvelle d'Électronique et de Radio-Industrie, qui sera ensuite absorbée dans le groupe Thomson, qui construit un énorme ordinateur pour calculer les données météo pour la météo nationale. Et après, la SNERI ne fera plus que des petits calculateurs embarqués dans le cas du groupe Thomson. Dans le même ordre d'idée, mais en allant nettement plus loin pour répondre à des demandes plus pointues à la fin des années 50, la SEA conçoit ce qui est sans doute la seule machine que l'on puisse qualifier de superordinateur en France jusqu'aux années 80. La seule, Dorothée. J'exclus complètement du champ des superordinateurs des machines comme le Gamma 60. Le Gamma 60 était une grosse machine, mais conçue pour être une grosse machine de gestion et pas du tout une machine scientifique. Très peu une machine scientifique. Et on reviendra un peu là-dessus, le IS-80 de la C2I. Dorothée, c'est une machine qui est très peu connue et pour cause. Elle a été construite à deux exemplaires seulement. C'est une machine caractérisée par l'indépendance de ses processeurs, de ses unités de calcul, par une technologie rapide, transistor au germanium, ce qui est une technologie de pointe.